Vous êtes sur RTL.
.fr.
Yves Calvi.
RTL Matin.
Bonjour Stéphane Israël.
Bonjour Yves Calvi.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le PDG d'Ariane Espace et vous êtes avec nous ce matin pour évoquer le lancement de la fusée européenne Vega. Le tir était prévu hier, mais finalement a été reporté à dimanche. Que s'est-il passé en quelques mots ?
Oui, alors pour qu'une fusée décolle depuis la base de Kourou en Guyane, il faut que la fusée soit prête, il faut que les satellites soient prêts et il faut aussi que la météo le permette. Mmh. Et donc, régulièrement, plusieurs jours avant le décollage de la fusée, on va vérifier la météo et on va notamment s'intéresser à deux paramètres. Mmh. Est-ce qu'il y a un risque de foudre ? Là, il n'y en avait pas, donc très bien. Est-ce que les vents vont poser une difficulté en fonction de leur vitesse, de leur direction, de leur altitude ? Et c'était le cas. Et quand c'est le cas, on va donc reporter le lancement de la fusée et on va attendre calmement et sereinement que les vents deviennent favorables.
Le départ de Vega marque le grand retour de l'Europe dans l'espace. Quel est le but de cette mission spatiale et quels sont les objectifs mais aussi les enjeux ?
Oui, alors effectivement, cette mission avec Vega, c'est vraiment l'Europe qui redécolle. Pourquoi c'est l'Europe qui redécolle ? Ouais. D'abord parce que Vega est un lanceur européen à dominante italienne. C'est un peu la petite sœur d'Ariane. Elle est opérée et vendue par Ariane Espace. Nous sommes un consortium européen. Il y a des soutiens de l'Agence spatiale européenne et de la Commission européenne pour faire effectivement la première mission, le premier charter de l'espace. Qu'est-ce qui va se passer ? Charter de l'espace, on a 53 satellites à bord, avec 7 satellites qui vont faire entre 15 et 150 kilos, et puis des satellites beaucoup plus petits qui vont faire entre 300 grammes et 11 kilos, qui sont ce qu'on appelle en position basse. Donc 53 satellites vont décoller dans ce charter de l'espace.
Donc des grappes de satellites et vous allez installer des satellites de 300 grammes. Mais ça sert à quoi un satellite de 300 grammes ?
Alors, donc ces satellites, ils vont servir à faire des démonstrations de télécommunications, de météorologie, d'observation de la Terre. Je vais vous donner un exemple. Oui. Il y a un des satellites, par exemple, qui est un peu plus gros, pas celui de 300 grammes, qui va viser à détecter les émissions de méthane au sol. Donc c'est un satellite à application environnementale. On le fait pour des Canadiens. Il y a un autre satellite qui va à la fois faire de la vidéo et de la prise d'image en temps réel. Il va y avoir des démonstrations météo. Donc on a vraiment, avec ce lancement, toutes les applications de l'espace à bord d'une même fusée.
En vous écoutant, je suis à la fois émerveillé, je me dis, mais est-ce qu'on a encore de la place là-haut ?
Alors, on a encore beaucoup de place là-haut.
Surtout quand vous balancez 53 satellites, enfin c'est un truc extraordinaire.
On a encore beaucoup de place là-haut. Alors en fait, quand on envoie des satellites, on va les envoyer sur des orbites différentes. Il y a les gros satellites de télécommunication qui font plusieurs tonnes, qui sont à 36 000 km de la Terre sur une orbite géostationnaire. Il y a les satellites Galileo qui font de la navigation, qui sont eux sur ce qu'on appelle une orbite moyenne. Et là, on est dans la banlieue proche de la Terre, dans ce qu'on appelle les orbites basses. Alors, les orbites basses, c'est entre 200-300 km et 1000 km. Et c'est là où on va aller. Il y a beaucoup de place, mais il faut s'en occuper.
Mais vous me dites quoi ? Qu'il y a finalement des départementales, des nationales et des autoroutes ou un périphérique et qu'on se met en place en fonction de ça ?
Ce que je vous dis d'abord, c'est que l'espace est vaste. Donc, je réponds à votre question. Oui, il reste de la place. Et qu'ensuite, effectivement, ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on envoie de plus en plus de satellites dans la banlieue proche de la Terre. Il y a à peu près 2500 satellites qui sont en orbite au-dessus de nos têtes en ce moment. Il y a à peu près 34 000 objets de plus de 10 cm qui sont aussi dans l'espace. Et donc, il faut faire attention à ce qui va se passer dans cette banlieue proche de la Terre. Il y a de plus en plus de projets, et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça va servir aux terriens, mais il va falloir un peu réglementer tout cela.
Et il va nous falloir des nettoyeurs de l'espace, non, d'une façon ou d'une autre ?
Alors, des nettoyeurs, effectivement, c'est un projet qui a une capacité de nettoyer effectivement d'éventuels débris. Il faut surtout que ces satellites aient dans leur cahier des charges le fait qu'une fois qu'ils ont fini de travailler, ils vont rentrer dans l'atmosphère en se détruisant. Mais il va falloir veiller à ce qu'il n'y ait pas de collision, et à ce qu'on comprenne mieux tout ce qui se passe dans cette orbite proche de la Terre.
Alors, ce qui est passionnant, et vous venez de l'évoquer dans le lancement de Vega, c'est qu'on a 21 clients différents, 13 pays, 53 satellites. Vous faites quoi ? Du covoiturage, du cofuséage ? Comment qualifier cette situation ?
Absolument.
C'est
une réduction de coûts, puisque de plus en plus de clients vont prendre le même véhicule. Ici, donc, ce que j'ai appelé un charter de l'espace, c'est effectivement très intéressant parce que ça donne une capacité d'accès à l'espace à des projets qui n'auraient pas le moyen de s'acheter une seule fusée. Il y a par exemple l'Université de Madrid qui est à bord. Donc effectivement, c'est une réduction des coûts d'accès à l'espace et c'est notre capacité à accrocher un nouveau segment de marché. Ce sont ces satellites entre 0 et 200 kilos qui ont besoin de partir en lancement partagé à intervalles réguliers.
Il y a quelques semaines, c'était Elon Musk, le patron américain de de SpaceX qui a envoyé toute une flopée de satellites en vue d'un grand projet spatial, lui ne se cache pas de vouloir tirer profit de l'espace, notamment en commercialisant des vols. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Et est-ce qu'on est aujourd'hui, nous, dans le même état d'esprit? Est-ce que nous sommes concurrents? C'est ça.
Nous sommes évidemment concurrents sur le segment commercial, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon compétiteur SpaceX travaille d'abord pour les institutions américaines. Il a reçu plus de 10 milliards de dollars de la NASA et des institutions américaines depuis qu'il a été fondé. Oui. Ensuite, il travaille pour lui-même, car il a un projet de méga constellation. Rendez-vous compte, il va envoyer jusqu'à 42 000 satellites dans les orbites basses, et il travaille marginalement sur ce qu'on appelle le marché commercial, mais là, il y va avec des prix très agressifs, parce qu'en fait, il bénéficie d'une capacité d'achat des institutions américaines. Je vous donne deux chiffres. Quand il vend aux institutions américaines, c'est 100 millions de dollars. Quand ça traverse l'Atlantique pour vendre sur le marché commercial, c'est moins de 50 millions de dollars. Je vous donne un autre chiffre. Oui. Nous, on va déployer des satellites de navigation pour l'Europe. C'est le grand projet Galileo. C'est à peu près 80 millions
qui
d'euros.
Qui doit assurer notre indépendance, hein, je le rappelle.
Absolument. C'est à peu près 80 millions d'euros pour deux satellites. Et ben lui, quand il envoie un satellite GPS dans l'espace, c'est plus de 100 millions de dollars. Donc, par rapport à lui, nous sommes extrêmement compétitifs, mais nous n'avons pas tout à fait les mêmes conditions. Et c'est donc dans ce contexte qu'il faut se mobiliser et se battre.
En deux mots, qu'est-ce que vous pensez de votre compétiteur? Puisque c'est le terme que vous venez d'employer, je trouve ça intéressant.
Ce que je pense d'abord, c'est qu'il faut que l'Europe ait une grande ambition spatiale, puisque c'est d'abord ça qui m'intéresse. Et ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'il y a une mobilisation sans précédent pour l'espace. Il y a un retour des Américains sur le vol habité. Donc nous devons, nous aussi, avoir une très grande ambition.
Mais vous savez ce qu'on se dit, c'est qu'il est une entreprise privée où il décide de tout et que par définition, Arianespace est une forme de multinationale européenne et qu'on imagine beaucoup plus difficile, à faire tourner.
Alors l'Europe spatiale, c'est pas les États-Unis. Effectivement, il y avait un homme politique américain qui disait que quand il appelait l'Europe, il voulait savoir quel numéro de téléphone. Oui. Donc nous ne sommes pas les États-Unis, mais nous avons réalisé la deuxième ou la troisième puissance spatiale au monde. Ariane vole depuis le 24 décembre 1979. Nous avons une place de leader sur le marché. Donc nous avons, avec nos spécificités européennes, de très grands succès, et nous en aurons d'autres.
L'espace fait rêver, mais il fait rêver en particulier quand il est habité. Est-ce qu'on peut imaginer un vol européen habité prochainement?
Alors, nous avons des astronautes qui partent avec des fusées russes ou des fusées américaines. Thomas Pesquet est en train de s'entraîner depuis les États-Unis. Il n'y a pas de projet de vol habité européen à court terme, parce qu'il y a après tout assez peu d'astronautes et ça coûterait quand même plusieurs milliards pour le faire. Nous avons le rêve qu'il y ait un jour cette possibilité d'avoir un homme ou une femme qui s'envole depuis la Guyane. C'est tout à fait possible. Nous avons toutes les briques technologiques qui permettent de le faire. Nous avons la fusée la plus fiable au monde. Nous savons faire des capsules. Nous l'avons fait pour envoyer du fret vers l'espace. C'est ce qu'on appelait le projet ATV. Donc si un jour les Européens le veulent, nous le ferons. Mais nous ne travaillons pas à budget illimité. Oui. Et donc nous sommes conscients de cette contrainte.
J'ai tant de questions à vous poser. La dernière concernera le projet Lune 2024. C'est toujours dans les tuyaux?
Alors, il y a, avec Ariane 6, la volonté d'envoyer une mission vers la Lune qui permettra d'étudier le régolithe à la surface de la Lune pour pouvoir mieux comprendre.
Qu'est-ce qu'on appelle le régolithe à la surface de la Lune?
C'est un mélange, il y a de l'eau et de l'oxygène. Ce sont des fines émissions à la surface de la Lune. Et si vous comprenez mieux ce qui s'y passe, le moment venu, vous pourrez fabriquer du carburant depuis la Lune pour faire redémarrer vos fusées et partir vers un espace plus lointain. Donc, aller vers Mars.
Le lancement de Vega, c'est l'Europe qui redécolle, nous avez-vous dit. Merci beaucoup Stéphane Israël. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Arianespace. Merci d'être venu ce matin nous faire rêver et aussi nous intéresser sur l'antenne d'RTL. Bonne journée.